Bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, aujourd'hui, on est en direct de la ville de Courson, hein, dans l'Aude, pour ceux qui nous écoutent dans l'Hérault et sur les Pyrénées-Orientales, je le précise. Donc, je suis en compagnie du maire de Courson, Édouard Rocher. Bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on est venu dans un lieu chez notre vinaigrier, enfin votre vinaigrier à Courson, la Granotte, Laurent Faure, qui nous expliquera un petit peu tout à l'heure comment il fait son vinaigre. On va commencer avec vous, puisque c'est votre premier mandat en tant que maire. Donc, quels ont été et quels sont toujours vos objectifs pour la ville de Courson durant ce mandat ?
Alors les objectifs pour la ville de Courson et les objectifs que nous sommes fixés au niveau de notre équipe, c'est de rendre Courson, faire une ville plus dynamique, plus attractive, où il fait bon vivre. Et l'idée, c'est de retrouver un petit peu l'esprit de village, même si nous sommes entre un gros village et une petite ville, puisqu'il y a 6000 habitants sur Courson, et que nous avions envie de redonner du dynamisme à ce village. Nous sommes à proximité de Narbonne et souvent, à tort, Courson est qualifié de ville dortoir, donc nous voulions lui redonner dynamisme, identité et identifier l'âme du village, et cela passe par à la fois des actions immédiates et puis des actions à plus long terme.
Alors, dans les actions immédiates, on va se lancer un petit peu sur le côté rénovation du patrimoine, parce que là, vous y êtes déjà bien attaqué depuis le début de votre mandat. Donc, rénovation du patrimoine, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Et puis, qu'est-ce qui va arriver?
Alors, rénovation du patrimoine, là, je parle exclusivement du patrimoine municipal. On pourra parler aussi de la partie urbanisme et ce qui est mis en place pour que l'ensemble des Coursanaises et des Coursanais puissent rénover leur habitat.
Oui, ça, on y viendra juste après. On va commencer par vraiment l'équipement de Coursan.
Donc, au niveau des équipements, ce que nous avions fléché comme volonté, c'est tout simplement de définir une feuille de route et d'ici la fin de ce mandat, de rénover l'ensemble des bâtiments municipaux, à la fois les bâtiments et les équipements publics, sportifs et culturels. Et donc, on a déjà commencé, puisqu'en fait, ça fait 3 ans que nous sommes élus, mais réellement 2 ans, puisque le premier budget est généralement fait par l'équipe précédente. Et là, nous avons déjà rénové donc la salle spectacle, qui est la salle Miro, le parvis de la mairie, puis la salle des mariages. On a également en cours pour 2017 la rénovation du gymnase, les vestiaires de foot, et puis une rénovation importante qui est en cœur de ville concernant la maison de l'information et du tourisme. Ça, c'est pour ce que nous avons fait, ce qui est en cours sur l'année 2018. Et puis 2017, et 2018 et 2019, on sera sur une rénovation de la salle polyvalente et du site, l'ensemble du site autour du stade du rugby. Il faut savoir que l'ensemble des équipements municipaux à Courson ont une trentaine d'années, donc il était nécessaire à la fois de les rénover pour des questions de praticité, de normes, d'esthétique aussi, mais également pour aussi faire des économies, puisque un bâtiment qui est mieux isolé, qui est mieux adapté en termes de chauffage ou de climatisation, c'est des économies de fonctionnement.
Vous avez eu déjà des retours des Coursanais, Édouard Rocher, sur les premières rénovations qui ont été faites, hein ?
Oui, très très satisfaits. Les Coursanais sont très satisfaits, notamment des rénovations de lieux les plus utilisés. Prenons l'exemple de la salle Miro, qui est une salle de spectacle. On a vu à la fois une fréquentation plus importante, qui est à la fois liée aux manifestations qu'on y fait, puisque les manifestations sont aussi une des actions importantes au niveau du village. On a créé, depuis que nous sommes arrivés, un festival de théâtre, un festival de jazz. On a mis en place les de Noël, la journée du commerce de proximité, toutes ces activités qu'on veut en cœur de ville et qui, notamment sur ces lieux-là, attirent de plus en plus de monde. Et ce sont des salles qui sont très, 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 très utilisées. Et hier, nous avions une des premières réunions de travail concernant la rénovation de la salle polyvalente. Et on voit que les gens répondent et qu'on travaille ensemble. L'idée, c'est vraiment de ne pas avoir les élus d'un côté qui travaillent et puis la population, mais de prendre en compte l'ensemble des demandes.
Voilà, donc ça c'est pour la partie rénovation du patrimoine coursanais. Maintenant, pour, on le disait tout à l'heure, pour les coursanais qui ont envie eux aussi de se lancer dans des travaux entre guillemets, notamment des façades, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Parce que je crois qu'il y a une opération qui est mise en place pour les propriétaires.
Oui, tout à fait. Nous travaillons en partenariat avec le Grand Narbonne. Nous avons développé, nous faisons partie d'une opération OPA-RU qui permet en fait à l'ensemble des courses années et puis aussi sur un ciblage particulier sur le cœur de ville de pouvoir bénéficier d'accompagnements importants en fonction des situations, 40, 50, 60% d'accompagnement sur de la rénovation de façade, sur de l'isolation, sur l'ensemble de ce que l'on peut faire dans un immeuble ou un appartement, tout ça. Simplement pour économiser de l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Nous, en parallèle, on rénove nos bâtiments et on demande aussi aux courses années, d'un point de vue esthétique, notamment sur les façades, mais aussi pour un plus grand bien-être, aussi des consommations réduites. Ça va aussi en parallèle avec des opérations qu'on va mener en cœur de ville de requalification d'îlots, c'est-à-dire que soit on détruit, soit on reconstruit pour tout simplement à la fois aérer le cœur de ville et le rendre vivant, intéressant, accessible et valorisant pour ceux qui y habitent et aussi pour les commerces.
Et pour les courses années qui nous écoutent, Édouard Rocher, donc pour ceux qui auraient envie de faire ce genre de rénovation, ils doivent s'adresser à la mairie.
Oui, tout simplement, le mercredi matin, aujourd'hui, il y a tout simplement en mairie l'entreprise Urbanis qui accompagne les particuliers qui souhaitent tout simplement travailler sur ces dossiers, à la fois propriétaires occupants, c'est-à-dire vous occupez l'appartement, ou tout simplement propriétaires bailleurs.
Bon, bah, très bien. Voilà, pour les courses années, n'hésitez pas. On va parler avec vous, Édouard Rocher, aussi un petit peu d'innovation, parce que vous avez innové, c'était aussi le but, hein, de votre mandat. Innover avec, par exemple, le parcours de santé de l'étang Salins, le City Park, expliquez-nous.
Alors, on a donc une feuille de route avec la rénovation des bâtiments existants et puis la création aussi de nouveaux équipements qu'on a voulu destiner à la fois à la jeunesse et puis aux familles. Et là, avec deux projets qui ont été réalisés, qui sont le City Park, qui sont un terrain de foot synthétique à 5 qui a été implanté, qui est très très utilisé, notamment là avec les beaux jours, qui est libre d'accès, donc qui permet à tous les enfants de venir avec leurs parents ou ensemble pour pouvoir jouer au foot synthétique. Sur terrain synthétique. Et puis après, le parcours de santé, on avait une pépite hein, qui est un lieu, l'étang Salins, sur lequel il y avait un étang qui était utilisé exclusivement par les pêcheurs. Et là, on y a fait un véritable parcours de santé, de balade. Et on y voit régulièrement des gens qui viennent y promener, soit les animaux, en famille, faire du vélo. Et aussi pour les plus sportifs, pratiquer les différents agrès, puisqu'il y a 12 agrès qui permettent de faire un peu du sport de manière un peu plus importante.
Et je crois aussi que vous avez un projet en cours, un projet qu'on ne trouve pas du tout au niveau du Grand Narbonne.
Alors, non seulement au niveau du Grand Narbonne, mais même en région Occitanie, je crois qu'il y en a, il y en a un, c'est ce qu'on appelle un pump track. Alors, je suis désolé pour cet anglicisme, mais c'est en fait comme une piste de bicross, qui généralement les pistes de bicross sont en terre battue. Et là, c'est un parcours sur 3000 mètres carrés qui va être en enrobé à chaud, comme du goudron, très très lisse. Et il y a plusieurs pistes, et c'est des pistes avec des courbes, des bosses, des descentes. Ça s'apparente à la fois un peu à un skatepark et une piste type bicross, et qui peut être l'avantage utilisé par à la fois à vélo, mais aussi à trottinette, à rouleur, en skate. Et c'est un véritable équipement qui fédère à la fois les familles, les jeunes, les plus ou moins sportifs, puisqu'il y a différents parcours en fonction de la difficulté que l'on recherche. Et ça, effectivement, la commission sport a bien travaillé sur ce dossier-là et a proposé cet équipement qui est particulièrement innovant, effectivement, comme vous le soulignez, sur le Grand Narbonne, mais même en région Occitanie, puisqu'il n'y en a qu'un pour l'instant.
Comment vous est venue l'idée, Édouard Rocher? Vous l'avez vu quelque part, ça?
Alors, nous, au niveau du conseil municipal, quand on a réfléchi un petit peu aux équipements manquants, on avait évoqué le fait de faire une piste plutôt orientée bicross. Et puis, on a un petit peu cherché. C'est la commission sport, comme quoi le maire ne fait pas tout dans une ville ou dans un village, mais c'est la commission sport qui, elle, des membres avaient entendu parler de cela. Et on fait des recherches et puis on proposait cela au conseil municipal. Et ça a été, bien sûr, accepté.
Voilà, donc un beau projet à venir pour fin 2017, début 2018.
Fin 2017, les consultations sont en cours. Là, justement, on va passer à la phase projet, c'est-à-dire qu'on va revenir aussi vers les utilisateurs. C'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier plan, des premières esquisses, et puis on va voir avec les jeunes qui utilisent déjà le skatepark de Courson et puis ceux qui voudraient travailler avec nous pour définir un petit peu les grandes lignes de ce projet.
Voilà, donc un beau projet si vous avez envie de faire du bicross, hein, tout ce qui tourne autour roller, comme on l'a dit, trottinette, il faudra venir à Courson, a priori ça vaudra le détour. Édouard Rocher, vous parlez beaucoup des familles, des enfants, ça semble important pour le village de Courson. Et justement, je crois que tout ce qui est enfance et petite enfance, c'est assez important. À Courson, vous avez un RAM maintenant, un relais d'assistante maternelle?
Oui, tout à fait. On a donc il y avait ce qu'on appelle un relais d'assistante maternelle itinérant, un RAMI, et dès que nous sommes arrivés en responsabilité, nous avons considéré que l'ensemble des assistantes maternelles, il était nécessaire qu'elles aient un lieu pour se réunir et pour pouvoir à la fois partager les expériences et d'avoir un autre mode de garde qu'une crèche municipale, puisque nous avons déjà une crèche municipale. Et donc nous avons créé il y a un an et demi donc un bâtiment qui est à destination des assistantes maternelles et puis qui est aussi en mixité d'utilisation aussi avec la crèche que l'on a aussi rénovée sur laquelle on a fait un agrandissement qui était demandé depuis un certain temps. Donc pour dire que voilà les modes de garde à Courson sont permettent aussi c'est quelque chose qui est important pour nous mais aux parents, aux mamans célibataires, aux papas célibataires qui ont des enfants, d'avoir un mode de garde pour pouvoir travailler et tout simplement ça participe à quelque chose qui nous paraît important. Également au niveau des écoles, on a doublé les investissements au niveau des écoles depuis que nous sommes arrivés avec des projets à court ou moyen terme qui sont notamment de créer une deuxième cantine, une cantine annexe sur un des pôles scolaires puisqu'il y a une cantine qui a été faite il y a 7 ou 8 ans mais qui aujourd'hui s'avère sous-dimensionnée avec les enfants qui doivent prendre le bus pour aller d'un pôle à un autre, ce qui ne nous paraît pas très intéressant ni écologiquement ni même économiquement.
Donc pour conclure, en fait, Édouard Rocher, il y a encore pas mal de choses, pas mal de projets, vous avez sur ce mandat.
Alors, à la fois, on manque pas de réalisation, ça c'est sûr, et puis on manque pas de projet, et c'est effectivement une mission qui est intéressante, enrichissante, et c'est agréable effectivement de construire des projets avec une équipe municipale, et puis également des services, que ce soit les services administratifs ou les services techniques, qui travaillent bien dans la même, puisque nous traçons un peu les grandes lignes, et puis c'est eux qui mettent en application, donc voilà, une véritable équipe soudée et qui permet de porter des projets intéressants pour la ville.
Merci beaucoup Édouard Rocher pour toutes ces précisions hein, sur la ville de Courson, grand village comme vous le dites. Courson donc avec Édouard Rocher pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, qui est le maire de Courson. Voilà, merci à vous et à très bientôt.
Merci beaucoup. Grand Sud
FM. On continue cette émission en direct de Courson, hein, donc à la Granotte Vinaigrier à Courson, c'est Laurent Faure qui est installé à Courson qu'on retrouvera tout à l'heure. On va déjà retrouver Olivier Pêche, qui est le premier adjoint, qui lui va nous parler un petit peu plus du village de Courson au niveau de sa population. On va parler un petit peu économie locale. Bonjour.
Bonjour.
Donc on l'a dit tout à l'heure avec Édouard Rocher, le maire de Courson, 6 000 habitants à Courson.
6 036 exactement au dernier recensement. Et dont 25% de la population sont des seniors, des retraités, mais néanmoins très actifs dans la vie associative du village. Et Courson est en train de se régénérer par un afflux de population, notamment des jeunes, par la construction de nouveaux logements et sa proximité aussi avec Narbonne qui attire pas mal de monde, mais aussi le dynamisme de sa vie associative qui est une vie associative très riche.
Alors, on va parler un petit peu économie locale. Courson, donc on le dit un gros village, une ville, moi j'ai la ville de Courson, mais qui fait aussi gros village, avec de nombreux commerces quand même.
Tout à fait. Alors, nous avons à Courson 50 commerçants sédentaires. Nous comptons environ une centaine d'artisans, donc 150 artisans commerçants. Nous avons aussi donc des halles couvertes qui sont ouvertes tous les mardis, les mercredis et les vendredis de 6h30 à midi, qui sont assez actives, et puis un marché de plein air tous les samedis matins de 7h à midi, qui regroupe environ 7 à 8 commerçants.
Vous avez des commerces qui sont un petit peu emblématiques à Courson, qui sont là depuis des années et des années?
Alors, des commerces emblématiques, oui, il y a bon, les bureaux de tabac et les cafés qui existent depuis fort longtemps. Et puis, emblématique, mais jeune, vous avez ben, l'établissement où nous sommes aujourd'hui, la Gragnotte, qui est tenue par Laurent Faure, qui est un coursanné de souche, dirons-nous.
Voilà. Et puis à Courson, alors on a des écoles bien évidemment, on a deux écoles maternelles et deux écoles primaires. Alors pourquoi ces écoles ne sont pas regroupées? C'est une histoire de place?
Alors oui, enfin une surface de place, mais les élèves sont répartis en fait dans les deux écoles en fonction de leur lieu d'habitation. Le village est coupé en deux en fait, et les enfants habitant sur une partie du village sont sur le groupe scolaire Saint-Exupéry-Chavernac, qui se situe donc sur la route nationale, et puis un deuxième groupe scolaire qui est l'école maternelle Casanova et l'école élémentaire Jeanne-Michel. Donc pour Saint-Exupéry-Chavernac, qui regroupe à peu près 200 élèves, et sur le groupe scolaire Casanova-Jeanne-Michel, nous avons environ 305 élèves.
Ah oui, donc quand même, il y a pas mal d'élèves à Coursan hein, présents.
Tout à fait, d'où le fait que nous ayons une population quand même relativement jeune, puisqu'il y a pas mal d'élèves dans chaque école. Et je précise aussi que nous avons bien évidemment le collège des Mailleuls, qui lui regroupe environ 650 élèves.
Et qui regroupe pas que des Coursanais, j'imagine. Et quels sont les villages qui sont concernés par le collège de Coursan?
Alors nous avons sur le village de Coursan les villages de Salles, de Fleury, c'est les élèves qui viennent de Saint-Pierre-la-Mer, évidemment, et Vinassan et Hermissan.
D'accord, donc ça fait quand même pas mal d'élèves au total, pas mal de petits jeunes entre les écoles, entre le primaire et la maternelle, et puis entre ce collège. Et on dit Coursan, donc beaucoup de commerce. Beaucoup de jeunes et puis un certain nombre d'associations aussi.
Effectivement, beaucoup d'associations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une vie associative très riche puisque nous avons aujourd'hui 90 associations dans le village. Le tissu associatif est un élément marquant pour le village. Nous avons, dès que nous avons été élus, essayé de redynamiser un petit peu sur la partie festive. Vous aurez l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec Cathy Boutier, qui est l'adjointe en charge des festivités chez nous. Voilà un tissu économique assez riche, des bénévoles qui s'engagent au quotidien pour leur association. Alors nous avons, je ne vais pas toutes les citer, mais nous avons trois associations auxquelles nous pensons qui sont assez marquantes. La plus ancienne d'entre elles, qui est l'Harmonie Républicaine, puisqu'elle a 140 ans. Le basket à Coursan, qui a fêté très récemment ses 80 ans et qui compte 160, me semble-t-il, ou 150 licenciés, dont nous avons les représentants ici, en l'occurrence Monsieur Diverchi. Et puis la Maison des Jeunes, qui a elle, été créée en 1974 et qui regroupe aujourd'hui 24 sections.
Ah voilà, donc c'est assez énorme. Et là aussi, j'imagine qu'il y a des enfants et des adultes hein, des villages environnants qui viennent à Coursan pour faire des activités.
Tout à fait. Nous avons adultes et enfants confondus sur les diverses sections de la MJC, mais pas que des Coursanais en effet, des gens qui viennent des villages aux alentours, notamment, je pense à Salles, je pense aussi à Vinassan, voire Fleury ou Hermissan.
Bah écoutez, merci beaucoup Lévi Epech. Hein. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint de la ville de Coursan. On va quand même, si avant de terminer, parce qu'on va revenir sur l'association tout à l'heure, effectivement sur le basket Coursan, on va quand même parler avec vous, si d'un point important, le tout nouveau site internet, le Facebook, et on a même une application mobile à Coursan.
Tout à fait. En effet, quand nous avons été élus, nous avons souhaité donner un coup de jeune à la communication de la ville. Donc, par la création d'un nouveau site internet sur lequel vous pouvez retrouver, bien évidemment, les rubriques habituelles, le mot du maire et puis la composition du conseil municipal dans son ensemble, la vie pratique du village et toutes les actualités. Nous avons effectivement ouvert une page Facebook qui est un moyen de un vecteur de communication important, tout le monde le sait, et qui tient au courant les gens du village de toutes les activités qui s'y déroulent. Et puis effectivement une application Android sur smartphone qui là aussi permet d'avoir toutes les activités du village et en temps réel avoir toutes les animations.
Donc pour l'application, on peut tout simplement la télécharger gratuitement sur Android, sur tous les téléphones.
Tout à fait. On peut télécharger sur tous les téléphones et les smartphones, pas de souci.
Vous avez déjà eu des retours ou pas?
À titre personnel, non, mais oui, il y a eu des retours sur la création de tout ça et que des bons retours. Donc on va continuer dans ce sens-là et dans une communication active et assez intense.
Merci beaucoup Olivier Pech. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint de la ville de Coursan.
Merci à vous.
Et justement, la ville de Coursan, on va un petit peu voir ses particularités avec l'adjoint en charge du personnel et des travaux, Jean-Pierre Héraille. Bonjour.
Bonjour.
On m'a dit que vous étiez un petit peu la Bible du village. Donc, quelles sont les particularités du village de Coursan?
Mais les particularités du village de Coursan sont très simples. Coursan, en fait, est né en 1320, puisque c'est au décours d'une grosse inondation que le barrage de Salelle a été détruit, et l'Aude a pris son cours au niveau de Coursan. Jusqu'à l'embouchure était vergruissant. Donc Coursan vit au rythme de ces inondations et vit au rythme du vignificole avec tous les événements. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, Coursang est très connu pour sa fontaine ferrugineuse, hein, il y a eu un puits artésien qui a été créé, je pense, en 1890-92. Et cette eau ferrugineuse fait un peu la fierté des Coursanais, elle coule jour et nuit. Voilà. Ensuite, bon, il y a le clocher, puisque Coursang était un village fortifié, il y a le clocher qui était une tour de guet, il y a l'église qui était la base de Coursang, puisqu'avant c'était quand même très, très catholique. Et puis il y a le portail Notre-Dame qui est une des portes, il y avait deux portes sur Coursang, le portail Notre-Seigneur qui était côté Béziers, puis l'autre côté Narbonne qui était le portail Notre-Dame, donc celui-là est resté. Voilà, et donc Coursang après s'est étendu, peut-être au point de vue urbanisme un petit peu pas très bien puisqu'il n'y a pas de vraie circulade, donc on est un peu gêné et on le voit au niveau circulation, donc Coursang est un peu asphyxié par la circulation, mais voilà, c'est un village quand même qui est très agréable, qui est très vivant, et je pense que voilà, il mérite toutes ces associations et tous ces engagements des bénévoles.
Alors, Jean-Pierre Hérail, on trouve aussi à Coursang la maison du tourisme.
Alors, la maison du tourisme est récente. Elle a pris la suite de l'office du tourisme. Alors, on est actuellement sur un nouveau statut, puisque le tourisme ne dépend plus de chaque ville. Dépend essentiellement de Grande Narbonne. Donc, de la maison d'information du tourisme qu'elle s'appelle actuellement, je pense que dès l'an prochain, ça va s'appeler Point Information de Tourisme. Alors, cette maison d'information de tourisme s'est intégrée aussi totalement dans la vie économique du village, puisque en dehors du tourisme, où elle indique aux étrangers, aux Français, aux Coursanais, toutes sortes de renseignements sur les manifestations, sur le tourisme, sur les horaires de camp, etc. Ça devient aussi un point d'animation patrimoniale, puisque ils organisent de nombreuses fêtes très importantes actuellement dans la région, qui sont le printemps fleuri, avec le marché des producteurs. On a relancé aussi les temps salins, qui était un lieu un peu désert, qui était inoccupé. Ils ont créé cette année Paquette avec la pose de nichoir, et la Ligue pour les oiseaux va venir s'intégrer dans ce cadre. Il y a eu quand même près de 300 ou 400 participants à Paquette. Ensuite, il y a le Festivar, qui a été relancé aussi par la maison d'information et tourisme, qui attire des photographes, des artistes, des peintres, des sculpteurs. Enfin, voilà, cette année, je crois qu'il y avait surtout des 14 exposants. Donc c'est quand même une chose. Puis ensuite, il y a les estivales, c'est-à-dire que l'on fait découvrir au cours d'année les richesses du terroir, notamment dont le vinaigré Granota, mais aussi le domaine de Ricardel l'an dernier où c'était le vin bio, le domaine de Canguilhem avait les melons, voilà, les caves coopératives avaient de Coursang-Missin, enfin, tout ça, ça a été des visites d'été. Là-dessus, c'est greffé aussi, organisé par la maison d'information et la mairie, la journée du commerce. Journée de commerce, qui est un samedi très important, la journée du patrimoine, et on termine, la maison d'information termine par le Coursang Gourmand, qui est un genre de foire, l'ancienne foire au gras, mais qu'un petit peu élargi à d'autres produits, biscuiterie, enfin tout ce qui est. Voilà. C'est le Coursang Information de Tourisme qui est une association qui le gère et qui est une association qui est très très dynamique au niveau Coursang.
Voilà, donc si on veut connaître toutes ces manifestations, mais une seule adresse, on va à les maisons du tourisme à Coursang. Merci beaucoup Jean-Pierre Hérail. Je rappelle que vous êtes adjoint en charge du personnel et des travaux. Merci.
Merci bien.
Allez, on va revenir sur cette association qui est le basket de Coursang, qui n'est pas n'importe quelle association, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça fait déjà 80 ans qu'elle existe, cette association. Et pour mieux nous en parler, on va retrouver Bernard Diverchy, qui est l'entraîneur du club. Bonjour.
Bonjour.
Alors, l'histoire un petit peu du club, rapidement.
Alors déjà, avant de passer à l'histoire, je ne suis pas l'entraîneur du club, je suis un des entraîneurs du club, et heureusement. Alors effectivement, l'histoire du club, tout le monde le dit, 1937, sa création, ce qui en fait a priori le premier club de basket de France. Certains pensent que c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais nous, on est certain que c'est vrai. Donc, 1937, on vient donc de fêter ses 80 ans, il y a 2 semaines. C'est un club qui réunit entre 150 et 160 licenciés chaque année. On est allé quelques fois un peu plus haut, quelques fois un peu plus bas, mais cette année, c'est le cas. Surtout dédié aux catégories jeunes. Enfin, on a toutes les catégories, mais on a une grosse participation de la jeunesse au SOC, à savoir qu'on intègre les tout-petits de moins de 7 ans, ce qu'on appelle les babies, puis les mini-poussins, puis les poussins. Alors tout ça, ça fait la catégorie mini-basket, pour laquelle nous avons obtenu, il y a plusieurs années, un diplôme, tout au moins un label régional, qui prouve un petit peu la qualité du travail qui est fait à Coursan, pour les jeunes en tout cas, au niveau du basket. Et ensuite, on passe par les catégories supérieures, les benjamins, les minimes, les cadets et cadettes, filles et garçons bien sûr, pour en terminer avec les seniors, filles, garçons. Donc, nous sommes un petit club à l'échelle nationale sur le plan de l'effectif, mais nous sommes tout de même représentatifs dans pratiquement toutes les catégories. Et nous sommes aussi présents sur les championnats régionaux. Nous ne nous cantonnons pas qu'aux championnats départementaux, nous sommes sur les championnats régionaux, pas forcément dans toutes les catégories, mais nous sommes connus. En tout cas, Coursan est connu dans tous les départements du Languedoc-Roussillon, même un peu Midi-Pyrénées, parce que nous y allons quelquefois faire des tournois. Coursan est connu dans les PO, dans le Gard, dans l'Hérault. On se dit, tiens, voilà Coursan qui vient faire un match. Nous sommes assez représentatifs, nous sommes assez performants, puisque nous avons toujours des résultats dans ces catégories. Voilà ce qu'on peut dire de Coursan. Alors, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur le club. Je ne peux pas oublier Georges Julien, qui est tout de même à l'origine, si pas à l'origine même à la création du club, en tout cas, a passé toute sa vie à Coursan, au basket de Coursan, avec derrière lui ou à côté de lui son épouse, Marthe. Ils nous ont tous deux quittés il y a quelques années. Le gymnase dans lequel nous évoluons s'appelle d'ailleurs le gymnase de Georges Julien. Nous avons le privilège de pouvoir l'occuper toute la semaine. Il est entièrement dédié au basket. Donc nous l'occupons du lundi au dimanche. Ça, c'est un privilège. Je crois avoir compris qu'on allait nous le restaurer. Donc à la rentrée, il devrait être tout beau, tout neuf. Voilà, donc en tout cas, le club est géré par toute une équipe de bénévoles. Les joueurs sont aussi des bénévoles. Nous ne salarions pas les joueurs et les entraîneurs à Coursan. Nous avons eu même la chance d'avoir une équipe senior en National 3 il y a quelques années, environ 8 ans, je pense. C'était même une belle performance pour un petit club. Je dis petit par le nombre de licenciés.
Donc, en gros, si on veut venir, si on veut faire du basket, il faut venir à Coursan, hein, si je résume, Bernard Diverchy.
Ah ben oui, forcément. Bon, il y a d'autres clubs, hein, soyons honnêtes, mais Coursan, c'est effectivement un bon club de basket. D'ailleurs, cet été, il y aura comme chaque vacances scolaires, que ce soit les vacances de fin d'année, Toussaint, février, Pâques, etc. Nous faisons des tournois, des stages, pardon. Nous en faisons également l'été. Mais en tout cas, la saison redémarrera pour certains fin août, pour les plus jeunes avec la rentrée scolaire, et les inscriptions se feront à ce moment-là. Nous encourageons évidemment tous les jeunes se cherchant une voie sportive de venir intégrer notre club.
Alors justement, on va terminer là-dessus, Bernard Diverchy, pour s'inscrire, comment est-ce qu'on fait ?
Alors, de toute façon, il y aura forcément une annonce dans les journaux avec les coordonnées des personnes à joindre, donc coordonnées numéro de téléphone. Ce qui est certain, c'est que dès la rentrée scolaire, à partir de ce moment-là, tous les entraînements redémarreront. Alors, nous informerons la population, entre guillemets, des créneaux horaires d'entraînement, parce que ça se redéfinit en début d'année. Pour l'instant, vous donner des coordonnées, des numéros de téléphone, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Les gens seront prévenus dès la rentrée scolaire, en fait, des coordonnées, des lieux d'inscription, des catégories d'âge acceptées, dès le début du mois de septembre, en même temps que la rentrée scolaire. En général, nous donnerons les entraînements chez les jeunes tout de suite après la rentrée scolaire. Le premier mercredi, la rentrée scolaire, en général, nous redémarrons les entraînements. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, tous les parents peuvent venir se renseigner et s'inscrire. Et il y aura, a priori, je pense, comme chaque année, la fête des associations sportives qui se déroule, là, j'ai pas la date précise, mais je pense que voilà, aux environs de la première, deuxième semaine du mois de septembre, où là aussi toutes les associations sont représentées et forcément le stand du basket sera présent et pourra là aussi prendre des inscriptions.
Bah écoutez, merci pour toutes ces informations, hein, Bernard Diverchy, et puis à très bientôt sur Grand Sud FM.
Merci beaucoup. Grand Sud
FM. Troisième partie de cette émission à Coursan, en direct de chez votre vinaigrier à Coursan, la Granotte. Donc là, tout de suite, on va retrouver Cathy Boutier, effectivement, qui va nous parler des festivités. Et on va déjà commencer par parler de l'importance de la musique à Coursan. Bonjour.
Bonjour. Alors la musique à Coursan a toujours eu une place de choix, hein. C'est une vieille tradition puisqu'on peut se targuer d'avoir à Coursan l'harmonie républicaine dont Olivier Pêche a parlé tout à l'heure, qui est la plus vieille association de Coursan et qui a fêté ses 140 ans en septembre dernier. Nous avons aussi une école municipale de musique, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les communes, qui est ouverte bien sûr à toutes les personnes du village, mais aussi qui accueille des gens des villages voisins.
Oui, parce que je crois que vous marchez aussi avec le conservatoire du Grand Narbonne, vous fonctionnez un petit peu ensemble pour le côté musique.
Oui, il y a quelques allers-retours qui se font en effet, mais bon, elle a sa structure pleine entière. Donc c'est une formation qui est de très bonne qualité et d'ailleurs qui a donné naissance et ouvert la voie à plusieurs groupes de musique coursanais, dont Rambal et Sagan, qui est une bande et qui sera là le jour de la fête de la musique le samedi. Et il faut savoir que pour la petite histoire, Rambal et Sagan tient son nom d'une ancienne troupe qui existait il y a plus de 30 ans, qui s'appelait Sagan et Rambal et qui accompagnait le rugby de l'époque, le RCC. Et donc en hommage à cette troupe-là, les nouveaux venus ont inversé les mots pour appeler Rambal et Sagan. Donc c'est une troupe une bande là, qui est très connue dans la région et même au-delà puisqu'ils ont gagné au Festival des Bandas de Condom un prix d'excellence. Donc voilà, on tenait à les féliciter. Nous avons aussi comme groupe coursanais issu de cette école municipale de musique les Bamboo Suckers. C'est une jeune formation cuivre qui sont très dynamiques et très festifs, que l'on retrouvera également donc pour la fête de la musique, pour Coursan en fête. Et également la Peanuts Band, une autre banda du CRU qui est menée de main de maître par une talentueuse chef d'orchestre qui est Christelle Thiel et musicienne d'ailleurs aussi, et plus de nombreux autres musiciens à Coursan. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais voilà, en musique, on a un beau...
beau vivier, Coursan. Et justement, bon, après cette partie musique, qui est assez importante à Coursan, comme vous l'avez dit, il y a un événement que vous aviez envie de nous présenter, qui est important ici aussi, qui est la fête de la Saint-Jean. Hein, c'est bien ça, hein?
Oui, voilà. Donc, beaucoup de manifestations à Coursan sont à venir. Bien sûr, Coursan a fête les 16 et 17 juin, donc vendredi et samedi prochaine. Et donc, après cela, il y aura la fête de la Saint-Jean à Coursan le 24 juin. C'est une vieille tradition catalane, en fait, où au départ, ils allaient chercher la flamme sur le mont Canigou et ils passaient de village en village pour amener la flamme jusqu'à Coursan. Donc, ça, c'est la MEJC qui organise cette fête. Aujourd'hui, on peut parler de fête populaire et une fête de quartier où les coursanais aiment à se retrouver chaque année.
Donc il y a des événements comme ça qui sont marquants à Coursan dans les festivités?
Oui, bah après on a les festivités bien sûr autour du 14 juillet. Hein. Il y a trois jours de fête populaire sur la place Taillade, avec organisé donc un partenariat entre la ville et le comité des fêtes. Et là, les festivités commenceront le 13 juillet. Donc tous les soirs à partir de 19h, il y aura un apéritif proposé fait par les associations, bien sûr, avec des animations musicales, dont l'harmonie républicaine. Puis ensuite, le 14 juillet, on ira d'abord faire un dépôt de gerbes au cimetière vieux, un apéro-concert avec Rambal et Sagan. Puis des jeux sur la place seront organisés, comme chaque année, au grand plaisir des enfants, des plus petits. En parallèle, il y a aussi un concours de pétanque qui je crois que c'est à la mêlée, je suis pas trop technique sur ce point, mais bon, en tout cas là aussi ça rassemble énormément de monde. Et bien sûr le 15 juillet, toujours des concerts avec comme point d'orgue le feu d'artifice qui se déroulera lui sur le site de Sainte-Marie à partir de 22h30. Et puis retour au flambeau accompagné par notre bandas locale vers la place Taillade.
Voilà, donc un programme chargé pour le week-end du 14 juillet. Bon, un événement important qui arrive quand même ce week-end, hein, donc les 16 et 17, vendredi et samedi, la fête de la musique. Quels sont les temps forts, Cathy Boutier ?
Alors, ce week-end, donc, bon, on l'a rebaptisé Coursa, en fait, parce qu'en fait, la première année où on a été élu, en 2014, le 21 juin était donc un samedi, et on avait dit, on peut pas passer à côté, il faut à tout prix faire quelque chose le jour de la fête de la musique, puisque, bon, il n'y avait jamais rien eu. Et donc, maintenant, on l'a appelé plutôt Coursa, en fait, parce qu'en fait, on est autour de la fête de la musique. Donc, l'idée, en tout cas, c'est la quatrième édition cette année. On remarque qu'il y a toujours plus de monde, la fête grandit, prend de l'ampleur, et si au début c'était une majorité de coursaniers, aujourd'hui nous pouvons dire que nous accueillons beaucoup de nos voisins, hein, de Salles, Fleury, Vinassin, même Narbonne. Avec Coursa en fête, on peut vraiment parler ici de créer du lien social ici, prendre tout son sens. Les maîtres mots pour nous, c'est plaisir et convivialité. Plaisir de partager, plaisir de se retrouver, d'être ensemble. En famille, entre amis, en couple, entre voisins, voilà, ça c'est très très important, autour d'un verre, d'une bonne assiette et bien sûr de la bonne musique. Et l'idée générale, c'est d'appréhender la fête de la musique, dans sa globalité. Alors bien sûr, il y a des concerts, mais avec pas moins d'ailleurs de 8 groupes qui vont intervenir sur les deux soirs, plus 2 bandas. Il y a aussi un DJ qui sera situé sur la place de l'église. Mais donc on va englober aussi des danses, des démonstrations de danse, du swing, de la country. Il y aura aussi une scène ouverte proposée à tous avec un piano et une guitare sur le podium de 18 à 19h30.
Donc ça c'est pour vendredi ou pour samedi ?
Samedi. Après je détaillerai le programme si vous voulez bien. Et là je donne l'idée générale. Et il y a aussi une bourse aux instruments et accessoires de musique. Donc là on est très très heureux d'accueillir cette année un luthier. Qui en fait fabrique donc des instruments à partir d'objets qu'il va recycler, mais fabrique de vrais instruments quoi, avec lesquels on peut jouer. Et d'ailleurs, ce matin, il paraît un article dans l'Indépendant sur ce monsieur qui s'appelle Michel Pérez. Alors notre volonté à travers cette fête de la musique, c'est de promouvoir les groupes. Des jeunes groupes de musiciens, ou pas jeunes, ou amateurs, ou un peu plus professionnels, c'est de leur permettre de se produire sur une scène dans de très bonnes conditions. On a vraiment mis le gros paquet sur la technique, le son cette année. C'est aussi de permettre aux associations de la ville, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont très nombreuses, bon, elles ne participent pas toutes, mais il y en a une bonne douzaine qui participent, et qui, par ce biais, peuvent avoir un apport financier supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Ils peuvent en même temps promouvoir leurs activités, créer, développer donc du lien avec la population. Voilà. Maintenant, si vous voulez, je peux...
Oui, on peut parler juste du programme pour vendredi, voilà. Hein, à quelle heure ça débute.
Voilà, donc, vendredi 16 juin, ça débute à partir de 19h, donc sur la place Taillade, avec 4 groupes, The Grooving Potatoes, Dirty Rock, Bamboo Suckers, Jam Rock. Ça se passe sur scène. Et ensuite, en déambulation, nous aurons le plaisir d'accueillir donc la formule Peanuts. En deuxième scène, comme je l'ai dit, il y aura un DJ sur la place de l'église. Et ensuite, le samedi 17 juin, donc ce sera sur toute la journée qu'il y aura des animations. De 8h à 12h, le marché gourmand. De 12h à 14h, un apéro-concert avec la banda Rambalé Sagan. Et donc là, 14-18h30, la bourse aux instruments et accessoires de musique. Donc j'invite toutes les personnes qui souhaitent venir vendre un instrument, des partitions, des vinyles, etc., à venir participer. Et donc de 18 à 19, là, ce sera la scène ouverte en alternance avec les danses. Et à 19h, on repartira sur les animations musicales, donc avec la banda Rambalé Sagan, Snake Oil, Sarcasme, Distillerie, et nous terminerons avec les excellents Fraggles.
Voilà, ben on va dire un week-end chargé qui se prépare quand même à Coursan. Il faut être à Coursan vendredi et samedi.
Ah oui, il faut à tout prix venir à Coursan. Tous les voyants sont ouverts, la météo, les groupes sont prêts, impatients, les associations aussi. Donc on attend beaucoup, beaucoup de monde.
Ben merci beaucoup, Cathy Rail. Je rappelle que vous êtes adjointe aux festivités à la ville de Coursan.
Merci beaucoup.
Allez, on va tout de suite enchaîner. Jean-Michel, hein, quelle heure est-il ? Il est midi. Et on va terminer, bien sûr, avec celui qui nous a invités, bien évidemment. C'est Laurent Faure, votre vinaigrier. Donc, vinaigrier à Coursan, la Granotte. Donc, il va nous parler un petit peu de l'histoire de la Granotte pour ceux qui ne connaissent pas les lieux. Bonjour, tout d'abord.
Bonjour à tous.
Alors, et parlez-nous un petit peu de l'histoire de la Granotte. Quand est-ce que vous avez commencé ?
Alors, la vinaigrerie a été lancée en 2009, donc ça va faire 7 ans. C'est un projet un peu fou qui a commencé tout doucement parce qu'il faut 3-4 ans pour lancer la production et qui commercialise des produits depuis 2013, depuis 1er août 2013. Donc, ça va faire 4 ans qu'on commercialise. Et donc, c'est une des rares vinaigreries artisanales de France. On est une poignée, 5-6, dont 2 dans l'Aude. C'est un peu une particularité locale. Et donc, on est face à uniquement des très gros industriels. Donc, on est des tout petits artisans au milieu des grosses industries françaises et italiennes.
Voilà, donc c'est quelque chose qui a été assez dur. Comment l'idée, est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de vinaigrier ? Je crois que vos parents sont viticulteurs.
Alors les grands-parents, du côté des grands-parents, donc il y avait des vignes. Il y a ma mère qui est encore propriétaire terrienne, donc il y a quelques vignes. Et en fait, l'idée est partie du constat qu'on n'avait pas de vinaigre, on ne trouvait pas dans le commerce de vinaigre de qualité. Et au contraire, la famille lointaine qui venait nous visiter était toujours en admiration devant le vinaigre familial. Donc l'idée, ça a été de faire à plus grande échelle ce qu'on faisait à la maison. Et c'est un secteur qui fait peur parce que on n'est pas du tout dans le monde du vin. On est sur des toutes petites quantités, des tout petits flux. Mais voilà, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire dans une région viticole avec des vignes autour. Et c'était voilà, c'est ça la genèse du projet, c'est de faire commercialiser un produit qui était en général réservé aux familles vigneronnes locales.
Donc voilà la Granotte, on en parle souvent. Donc vous fabriquez du vinaigre, mais finalement vous avez continué, puis vous êtes dit tiens pourquoi je me lancerai pas du côté de la moutarde.
Effectivement, donc d'abord le vinaigre de vin, puis alors on fait des essais sur d'autres types de vinaigres, les vinaigres de cidre sont en cours de fabrication, puis les vinaigres plus originaux, la balsamique qui est un vinaigre un petit peu différent, et la moutarde c'est assez récent aussi, parce qu'il faut un tiers de vinaigre pour faire de la moutarde, un tiers de graines, un tiers d'eau en gros, donc l'eau, aucun intérêt. La graine de moutarde, elle pousse en Narbonne, donc là je voulais tout contrôler, puisque 90% des volumes viennent d'Inde, de Chine ou du Québec, donc je voulais quelque chose de plus local. Donc on fait pousser la graine de moutarde sur le plateau du 14, chez le domaine de Sainte-Perdrix, chez Marc Fabre, qui produit la graine, et donc on a un produit 100% narbonnais.
Donc si je comprends bien, Laurent Faure, vous avez quand même pas mal voyagé pour en arriver à faire ces vinaigres avec des goûts assez impressionnants, pour faire ces moutardes.
Oui, les inspirations, enfin, par mon ancien travail, j'ai été amené à beaucoup voyager, donc ça donne des inspirations. C'est vrai que c'est bien aussi de voir ce qui se fait ailleurs, pour essayer de sortir et puis au gré aussi des rencontres avec des experts en épices et des professionnels aussi, parce que quand on voit des gens, par exemple des moutardiers, on apprend beaucoup de choses, donc c'est au gré des voyages et des rencontres qu'on retrouve un peu l'inspiration. Mais il ne faut pas oublier que le cœur, c'est quand même l'acétification, c'est le terme technique pour transformer le vin en vinaigre, et ça c'est mon cœur de métier quand même, il ne faut pas l'oublier. J'ai tendance à l'oublier.
Comment est-ce qu'on les fabrique ces produits ? C'est long, c'est dur ?
Alors, je précise souvent, en général, il faut 24 heures à l'industrie pour faire un vinaigre. Moi, il me faut 24 mois. Donc, je n'ai pas calculé le ratio entre l'heure et le mois. Là, c'est long, c'est de la patience, un peu de savoir-faire, et puis la matière première. Dans les raisins, il faut un bon raisin pour faire un bon vinaigre. On a tout ici, et voilà, avec de la patience, on y arrive. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être désespéré. Il y a toujours le ventre mou de la production au démarrage, où on se dit on n'y arrivera jamais. Et puis, finalement, avec la patience, tout le vinaigre sourit, tout se met en place, et maintenant, ça tourne à peu près. Voilà, plus trop de d'aléas.
Et puis, il y a une chose que les auditeurs imaginent peut-être pas. On parle de vinaigre. Bon, voilà, peut-être ça ne les fait pas forcément rêver. Et pourtant, vos vinaigres ont des saveurs assez impressionnantes. Et le vinaigre se déguste. On en avait parlé d'ailleurs avec Jacqueline Bonnet, qui est notre maître sauvelière. Mais le vinaigre se déguste un petit peu comme le vin. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un bon vinaigre ?
Alors, là pour ça, la partie dégustation pour faire court. Oui, on peut déguste. Alors, il y a deux protocoles, hein, le très professionnel sur une cuillère et quelques gouttes. Il faut préparer le palais, il faut faire abstraction de l'acidité. Et avec le syndicat, on a créé une petite structure des petits producteurs. Alors, on n'est pas beaucoup, c'est vrai, ça fait un peu rire. Mais sur un élément neutre, style pain ou pomme de terre, voilà, on goûte, on essaie de récupérer l'essence du vinaigre sans le neutraliser. Pour la partie, j'ai oublié la deuxième question que vous voulez me poser.
Je disais, en fait, comment est-ce qu'on reconnaît un bon vinaigre?
Alors, un bon vinaigre, il faut qu'il soit fait avec la méthode d'Orléans. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît dans les maisons. C'est le tonneau et la fermentation lente avec la mer en fût. Si on fait la méthode industrielle, on force le vinaigre et on le dénature. Donc, il faut de la patience et il faut une bonne matière première. Ici, il y a ce qu'il faut. Mais par exemple, les Bourgognes, j'aime souvent le rappeler, un bon jurée chambertin, par exemple, ne ferait pas un bon vinaigre. Ce ne sont pas des vins adaptés pour devenir vinaigre. Donc, il faut des vins plus charpentés, plus chauds, plus de matière. Et donc, les vins du midi s'y prêtent à merveille.
Voilà, c'est tout un art de faire du vinaigre, si on avait bien compris. Vos vinaigres, vos moutardes, où est-ce qu'on les trouve?
Alors, on peut venir déguster et acheter les produits directement à la vinaigrerie, donc à Coursan.
On va donner l'adresse.
16 rue Béringer, il faut faire attention, en face de l'ancienne gendarmerie, la poste. Vous avez un panneau qui indique dans une rue en face. Sinon, sur le Narbonnais, vous avez à peu près tous les cavistes du Narbonnais qui distribuent les produits. La ferme des producteurs, certains primeurs, dont je ne vais pas tout citer. La vente en ligne, on peut acheter en ligne et venir retirer. Ou se faire expédier, c'est plus simple. Le Biterrois aussi, quelques épiceries fines, les moulins à huile qui les distribuent. Perpignan, en centre-ville, rue Paratilla, et j'oublie d'autres villes, Lézignan, CDD, pour nos amis des Corbières. Et sinon, voilà, le mieux c'est de venir visiter parce qu'on apprend un petit peu sur les vinaigres et on peut découvrir les 13 ou 14 vinaigres actuellement en vente.
Voilà, c'est assez énorme. Et les visites, comment ça se passe? On vous appelle, on vient à l'improviste, il y a des horaires, des jours?
Alors, à l'improviste, on peut toujours essayer entre 9h midi, 2h, 18h du mardi au samedi. Il y a toujours quelqu'un. Et pour avoir le bonhomme, parce que sinon vous aurez une vendeuse, si vraiment vous voulez planifier une visite, le mieux c'est de contacter. Donc vous avez le numéro de téléphone sur le site, de contacter pour prendre rendez-vous pour être sûr que je sois là. Voilà.
Et le site internet?
Alors, www.granota, alors je le prononce à la française, donc GRANHOTA.com. Voilà.
Et donc, on trouve tout, vos produits, on peut commander, on peut voir les horaires de visite, on peut vous appeler. Moi, j'aimerais quand même préciser que, vous le disiez, il faut du temps pour faire un bon vinaigre, 24 mois en l'occurrence pour vous et pas 24 heures comme les industriels. Vous avez quand même des grands chefs qui utilisent vos vinaigres.
Alors, c'est un domaine que j'ai peu travaillé, c'est-à-dire que je m'occupe pas trop des restaurateurs. J'ai la chance d'en avoir quelques-uns, mais ça va changer parce que là, j'ai bien être référencé donc par le Collège culinaire de France, donc qui répertorie au niveau national les producteurs de qualité. Donc, c'est dirigé par Alain Ducasse et Joël Robuchon. Donc, c'est une association pour remettre en relation les restaurateurs de qualité et les producteurs. Donc, je viens d'être sélectionné par le jury et ça va permettre de communiquer un petit peu auprès des restaurateurs parce que je m'en occupe pas assez, mais on peut pas être au four et au moulin. Au tonneau et à la vente. Donc, ça va permettre cette accréditation de développer les chefs et d'en avoir plus qu'actuellement parce que je ne m'en occupe pas du tout.
Et voilà, vous êtes sur la production. Mais bon, quand même, pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, vous l'avez compris, la Granota, alors GRANHOTA, Granota, si on ne le prononce pas en occitan. Donc, vous n'hésitez pas, vous voyez ces produits. Moi, je les ai testés pour vous, je peux vous dire, ils sont excellents. Vous avez 14 sortes de vinaigre, il vous l'a dit tout à l'heure, Laurent Faure. Vous avez une moutarde qui est juste exceptionnelle, donc n'hésitez pas. Et je pense notamment à la cave de l'Enfort à Narbonne, où on trouve les produits, c'est bien ça?
Oui, cave de l'Enfort, je ne vais pas citer tout le monde, le vin du palais, le petit bouchon, j'en oublie, je vais me faire...
Non, mais voilà, moi je cite la cave de l'Enfort parce qu'on les connaît bien et parce que j'ai vu vos produits.
Exactement, ils ont quasiment toute la gamme. Et sinon, au pire, vous passez un coup de fil pour savoir exactement quel est le revendeur le plus proche. On vous répondra avec plaisir.
Eh bien, merci pour toutes ces infos, en tout cas, Laurent Faure. N'hésitez pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est une institution à Coursan. Vous venez à la Granota, vous venez visiter et vous allez comprendre la différence entre le vinaigre de Laurent Faure et le vinaigre industriel que vous pouvez vous procurer. Voilà, merci beaucoup.
Merci à tous. Grand Sud FM.